qui ?
Bonsoir à tous, à l'écoute de Radio France Internationale, il est 16h à La Havane, 20h temps universel, 22h à Paris.
Adrien Delgrange.
L'heure de retrouver votre journal en français facile ce soir en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Adrien, bonsoir à tous.
À la une de ce journal international, la valeur de la monnaie turque est en chute libre, moins 20% en une seule journée. C'est la conséquence de l'annonce de Donald Trump d'augmenter des taxes imposées à la Turquie.
Les Cubains, eux, sont appelés à voter pour une nouvelle constitution. Nous l'avons appris aujourd'hui, le vote aura lieu au mois de février l'année prochaine.
Dans ce journal également, Emmanuel Macron prend la défense du cinéaste Oleg Sentsov. Il est détenu dans les prisons russes et le président français s'est entretenu à ce sujet aujourd'hui avec Vladimir Poutine.
Et puis un mot de football français pour le match d'ouverture du championnat de Ligue 1. Marseille mène 1-0 contre Toulouse.
Voilà pour les titres, bienvenue à tous.
Les journaux.
Le journal en français facile.
En français facile.
Le président américain a annoncé ce matin une augmentation des droits de douane sur les produits qui viennent de Turquie.
À savoir plus 50% sur l'acier et plus 20% sur l'aluminium. Une annonce qui a eu pour conséquence directe de dévaluer la monnaie turque, c'est-à-dire la livre turque, c'est la monnaie de ce pays, a perdu de sa valeur sur les marchés internationaux. Alors pourquoi Donald Trump a-t-il décidé d'augmenter ses taxes et donc de punir la Turquie ? Explication à New York de Grégoire Pourtier.
La principale origine de la brouille actuelle entre Washington et Ankara concerne le sort d'un pasteur protestant américain. Andrew Brunson est installé depuis une vingtaine d'années en Turquie, mais il est désormais soupçonné de mener en fait des activités terroristes et d'espionnage. Brunson a donc été arrêté il y a bientôt 2 ans, peu après le putsch manqué contre Recep Erdogan en juillet 2016. Il a longtemps été incarcéré, il est désormais en résidence surveillée avec interdiction de quitter le pays. Ces derniers mois, l'administration américaine a fait de sa libération un cheval de bataille. En avril, pour exprimer à quel point il pensait le pasteur innocent, Donald Trump avait par exemple tweeté « Ils disent que c'est un espion, mais moi-même, je suis davantage un espion que lui ». Le ton est ainsi progressivement monté. En juillet, le président estimait que Brunson était otage des autorités d'Ankara, puis les premières sanctions symboliques sont tombées. Mais la dernière annonce de Trump est évidemment beaucoup plus conséquente, amplifiant spectaculairement la dévaluation de la monnaie turque et engageant les deux pays dans un conflit désormais ouvert. Grégoire Pourtier, New York, RFI.
Après la mort hier de 29 enfants au Yémen, des enfants tués par des raids aériens alors qu'ils étaient dans un bus, aujourd'hui à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni pour évoquer cette attaque meurtrière. Eh bien, à l'issue de la réunion à l'ONU, ils ont décidé de diligenter, c'est-à-dire de lancer une enquête pour comprendre pourquoi ces enfants sont-ils morts. Et puis, cette autre décision aujourd'hui de l'ONU, prise par l'Assemblée générale des Nations Unies, à savoir la nomination de Michelle Bachelet au poste de haut-commissaire aux droits de l'homme. L'ancienne présidente du Chili prendra cette nouvelle fonction début septembre pour un mandat de 4 ans.
Emmanuel Macron, lui, demande à Vladimir Poutine une solution humanitaire pour le cinéaste Oleg Sentsov en grève de la faim depuis 3 mois.
C'est ce que le président français a dit aujourd'hui au téléphone au président russe, car le réalisateur de films Oleg Sentsov est en prison en Russie. Il a été condamné à 20 ans pour terrorisme et trafic d'armes. Alors ce monsieur ne s'alimente presque plus depuis le mois de mai et selon ses proches, son état de santé se dégrade fortement. Alors que sait-on de cet échange aujourd'hui entre le président français et son homologue russe, Nicolas Falaise. Lors de cet échange téléphonique, Emmanuel Macron a formulé plusieurs propositions à Vladimir Poutine afin de trouver, je cite, de façon urgente une solution humanitaire à cette situation. Le communiqué de l'Élysée ne précise pas la nature des propositions françaises, mais assure que le président russe s'est engagé à y répondre et à diffuser rapidement des éléments sur l'état de santé d'Oleg Sentsov. Ce n'est pas la première fois que le chef d'État français évoque la situation du cinéaste ukrainien avec Vladimir Poutine. Ce fut encore le cas le 15 juillet dernier à Moscou, lors de la finale de la Coupe du Monde de football. Mais depuis, les informations alarmantes se succèdent. L'avocat d'Oleg Sentsov affirme que son client a perdu 30 kilos et souffre de problèmes cardiaques. Et dans une lettre adressée à un membre de sa famille, le cinéaste écrit que sa fin est proche. Oleg Sentsov, 42 ans, est un opposant à l'annexion de la Crimée par la Russie. Son procès a été qualifié de stalinien par l'Organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International. Les précisions de Nicolas Falaise.
Le journal en français facile.
À Cuba, la télévision nationale annonce que les Cubains vont devoir voter pour ou contre une nouvelle constitution.
C'est un référendum qui sera donc organisé, une consultation populaire qui aura lieu précisément le 24 février prochain pour changer la constitution. La constitution, c'est ce texte qui définit les règles d'un pays. Et ce changement à Cuba a pour but de reconnaître ce qu'on appelle l'activité privée des Cubains dans l'économie de leur pays. Les précisions de Victor Zamit.
1959, Fidel Castro arrive au pouvoir à Cuba et abolit la propriété privée. Cela fait donc presque 60 ans que ce terme n'est plus inscrit dans la constitution cubaine. Mais l'île des Caraïbes ne se dirige pas non plus vers une économie totalement libérale. Le projet de réforme constitutionnelle reconnaît l'économie de marché tout en réaffirmant le caractère socialiste du système cubain. Officiellement, pas de virage capitaliste donc, à l'instar de ce qui se passe en Chine par exemple. Parmi les autres nouveautés que propose cette réforme constitutionnelle, l'ouverture au mariage homosexuel ou encore la création d'un poste de premier ministre. Toutes ces propositions seront débattues par le peuple cubain lors d'un débat populaire qui se tiendra durant 3 mois. Certains amendements pourront être déposés, mais aucun changement majeur ne sera pris en compte. Puis à la fin de cette consultation, les Cubains diront si, oui ou non, ils valident le texte final lors d'un référendum organisé le 24 février. Une date symbolique, puisqu'elle correspond à un double anniversaire, celui de la proclamation de l'actuelle constitution de 1976 et celui du début de la guerre d'indépendance contre l'Espagne.
Victor Zamit.
RFI, 20h07 en temps universel, l'actualité africaine.
Et tout d'abord au Zimbabwe, où le perdant de la dernière élection présidentielle, Nelson Chamisa, conteste la victoire d'Emmerson Mnangagwa d'il y a 10 jours. Conséquence, l'investiture d'Emmerson Mnangagwa, vainqueur de l'élection du 30 juillet, est suspendu jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle, saisie par l'opposition, rende une décision. Et puis la fin ce soir de la campagne électorale au Mali. Rendez-vous maintenant dimanche pour départager Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé pour ce second tour. Ouverture des bureaux de vote au Mali ce dimanche à partir de 8h du matin.
Les Celtes du monde entier ont, eux, rendez-vous à l'Orient, c'est dans l'ouest de la France.
Les Celtes, ils sont bretons, irlandais ou galiciens. Ils se donnent rendez-vous chaque été au Festival Interceltique de l'Orient. Et alors cette année, c'est le Pays de Galles, nation de 3 millions d'habitants dans l'ouest de la Grande-Bretagne. Le Pays de Galles, donc, invité d'honneur de ce festival. Écoutez le reportage de notre envoyé spécial en Bretagne, Sébastien Gédor.
Croeso y an Orient. En français, bienvenue à l'Orient.
La langue galloise résonne un peu partout à l'Orient, et c'est normal. Le gallois est la plus parlée des langues celtiques, surtout chez les jeunes. Un motif de fierté pour Anton Owen X, responsable de la délégation du Pays de Galles.
Il y a tout un mouvement pour promouvoir la langue galloise. L'enseignement en gallois est d'un très bon niveau. Aujourd'hui, 40% des moins de 16 ans parlent gallois. 40% of under 16-year-olds speak Welsh.
Dans le le pavillon du Pays de Galles résonnent les notes d'une harpe triple, l'instrument national gallois d'Ellis Jenkins en joue en virtuose.
L'harpe que je joue, c'est, les gens l'appellent l'harpe celtique. Alors c'est l'harpe qu'on joue la musique traditionnelle. Je joue des mélodies traditionnelles du Pays de Galles, mais aussi j'écris des mélodies qui sont inspirées par la tradition.
Et qu'est-ce qui vous inspire alors, vous, quand vous écrivez vous-même ?
Le paysage, la famille, la littérature, beaucoup de choses.
Une inspiration, une passion que Delis Jenkins a transmise à sa fille, Angarade, avec qui elle se produit aussi en duo. Sébastien Gédor, Lorient, RFI.
Un dernier mot de football pour vous dire que maintenant Marseille mène 2-0 contre Toulouse en match d'ouverture du championnat de Ligue 1 en France.